Bien prosaïque. J'étais à l'ONF, le vidéographe ça a commencé au mois de juillet 71. Puis moi j'étais dans ma salle de montage. Puis j'étais en train de terminer un film qui a eu la vie bien courte, qui s'appelle La Guérilla, les gars. Puis Forgette est venu me parler du vidéographe. J'avais jamais entendu parler de ce projet-là, parce que moi j'étais pigiste à l'ONF. Et puis, le magnétoscope, je connaissais à peu près rien. J'étais professeur à l'Assomption, au collège, puis je me souviens que j'avais amené des étudiants au vidéographe, à l'ONF. Puis là, on avait visité l'ONF. Puis en même temps, je connaissais Pelletier, qui était un responsable de la magnétoscopie. Et puis, il m'avait passé une vidéo, et puis les étudiants s'étaient amusés avec ça. Mais c'était magnétoscope de première génération. Puis pour moi, c'était le cinéma des pauvres. Alors, Forgette arrive dans ma salle de montage, puis il me parle du vidéographe. Puis il me dit, j'aimerais ça que tu sois responsable de la production. Bon, j'ai dit, donne-moi 24 heures pour y penser. Moi, j'ai dit, techniquement, le vidéo, je connais pas ça. Puis pour moi, c'est le cinéma des pauvres. Maintenant, culturellement, ça m'emballe, ce projet-là. Ça, c'était des raisons positives. Il y avait des raisons aussi bien négatives, c'est que je sortais de l'ONF, puis il me fallait un job, tu sais, pour payer mon loyer, puis mon gaz, puis mes spaghettis. Alors, c'était un boulot intéressant. Puis je voulais pas faire de film tout de suite, parce que si j'avais fait un autre film à ce moment-là, j'aurais refait exactement tout ce que je faisais depuis 2-3 ans, là, que je réalisais des films à l'ONF. Et puis, je voulais... Je voulais prendre du temps, me trouver une position intéressante, puis prendre un recul par rapport à ce que je faisais, par rapport au cinéma. Puis aussi, je voulais bien gros sortir de l'ONF, la boîte même. Là. C'était un milieu pour lequel j'ai pas particulièrement d'affection. J'aime bien gros du monde, il y a pris individuellement, mais comme ambiance, qu'ils y dégagent. Alors, si tu te... Puis Forgette me dit, bon, on s'en va ailleurs. On sort d'ici parce que, dans la nature même du projet, les gens ne viendront pas à Côte de Liesse. Les gens qui vont venir aux vidéographes, les artisans, c'est des gens qui n'auront pas d'automobile. Alors, te rendre là, c'est aussi bien d'aller au Sahara. Ça fait que, toutes ces raisons, bien mêlées, puis, en tout cas, moi, je me souviens, Forgette était venu, c'était autour du 20 juin. Puis, je m'en allais vers la Saint-Jean-Baptiste, avec Yo-Yo, à Cape May. Puis il était venu peut-être quelque chose comme le mardi, le mercredi. Puis j'ai dit, bon, ben, je m'en vais en vacances. La semaine prochaine, je vais prendre une semaine de vacances. Je te donnerai une réponse demain. Puis le lendemain, je l'ai vu. J'ai dit, bon, ben, j'accepte. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Je connaissais rien au magnétoscope. Rien.
Tu l'as appris graduellement, en fait.
Ben là, j'ai été fouillé dans la cave. Il y en avait un. Et puis, j'ai tourné avec ça. Puis le binamé est engagé. Ça, c'était le 1er juillet. Les premiers qui ont été engagés, il y avait Monique Larocque puis Roselyne. Alors, moi, j'ai commencé dès le 1er juillet avec Forgette. Puis Roselyne puis Monique étaient pris dans d'autres projets qui devaient terminer à l'ONF même. Alors, ils sont arrivés peut-être vers le 20-25 juillet, quelque chose comme ça. Puis il y a Binamé qui est engagé tout de suite. Il avait été recommandé, d'ailleurs, à Forgette par Cloutier. Cloutier était producteur de la Société Nouvelle. Puis Cloutier cherchait un responsable de l'équipement. Puis il avait fait des entrevues, puis il avait dit... Il y a un jeune gars qui est allé au collège Stanislas, qui m'a l'air bien ébrouillard. C'est comme ça que le grand Charles est embarqué avec nous autres. Donc ça, c'était les débuts. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis baladé avec Roselyne. On s'était partagé les tâches. Puis c'est moi et Roselyne qu'on a trouvé ça ici. On voulait, quelque part sur Saint-Denis, mais en bas de Sherbrooke, parce que c'était peu de temps après la crise d'octobre, 5-6 mois. Puis en haut de Sherbrooke, c'était considéré par la police comme un lieu subversif. Puis en bas de Sherbrooke, c'était pas subversif. On s'est dit... Moi, j'avais vu ça. Il y avait cette place-ci, puis il y avait l'autre côté où il y a la nouvelle compagnie théâtrale. Mm-hmm. Ça, c'était à 8 puis 1 an à peu près.
coin d'Ontario.
Ouais. Et puis Robert ici, quand je me souviens, on était venu, ça ne l'intéressait pas bien gros. C'était un magasin de fourrure qu'il y avait. Et puis le lieu ne l'intéressait pas, à prime abord. Puis moi, je me souviens, j'avais discuté avec lui pour l'en convaincre. J'avais dit, regarde, on pourrait mettre telle affaire ici, salle de montage. Il y avait une place pour un théâtre, tout ça. Puis, mais il était pas convaincu au début qu'on faisait un bon coup là-dedans. Il était convaincu de l'emplacement, mais de la nature même de l'édifice. Là. Mais ça, c'était assez bien passé.
Mais le fait qu'au départ, c'était. Au départ, le projet s'appelait.
Expression jeunesse.
Expression jeunesse. Ça déterminait-tu un peu.
C'est bizarre. Moi, tu m'apprends quelque chose. Moi, ça a toujours été uniquement du vidéographe.
Mais c'était le titre, le sous-titre du projet.
Le sous-titre du projet.
Expression jeunesse.
Expression jeunesse. C'est parce qu'au début, c'était fondamentalement en fonction de la jeunesse que ça avait été fait. En tout cas, dans l'esprit de projet, je ne sais pas si pour toi, c'était la même chose.
C'est possible.
Parce qu'il parlait toujours que bon, la jeunesse. Mais, ouais.
Moi, dans ma tête, c'était peut-être une. Je pense que Robert avait soumis le projet. Il avait proposé pour qu'il soit accepté par le comité du programme le plus possible. OK. Alors, c'était du demi-pouce, cinéma des pauvres, puis les jeunes. Ils sont fatigants quand ils frappent à la porte. Fait que ça devait être plus acceptable de cette façon-là par le comité du programme de l'ONF. Mais je sais qu'au départ, les premiers qui sont venus, c'était des jeunes. Mais dès qu'on était installés ici, puis que tu as eu Lise Bélanger qui est venue, puis d'autres, là, il n'était plus question de limiter ça aux jeunes. Au contraire, à ce moment-là, on faisait des efforts pour susciter des projets d'adultes, puis des gens qui n'étaient pas dans les cégeps.
Mais, par rapport à ça, depuis le début, depuis que ça a commencé, le vidéographe, puis où ça en est rendu aujourd'hui, les objectifs de départ, ils ont-ils été respectés? Les hypothèses ont-ils été vérifiées ou non? Ça demeure encore à être vérifié. C'est par rapport à que, par exemple, le magnétoscope pourrait être un outil d'expression pour tous les citoyens, que tous les citoyens avaient quelque chose à dire, donc...
Les trois hypothèses de départ du vidéographe, c'est... On a dû vous les répéter 50 fois, là. C'était que des citoyens ordinaires ont quelque chose à dire. Que ce qu'ils vont dire, il y a un public pour ça. Ça dépasse, ça a situé un caractère universel. C'est pas rien que les chums du samedi soir autour d'une bière et d'un galon de Malbec là, qui vont regarder ce qu'ils ont fait. Et puis qu'un médium apte à remplir ses intentions. Un demi-pouce. Ça, je pense que c'était vérifié. À partir de ça, ça a l'air bizarre à dire, mais quand je me souviens, je m'occupais de la production, puis les premières productions qui étaient réussies, on sautait à pieds joints, parce qu'on ne savait pas jusqu'où le monde pouvait aller. Tu regardes, les premières productions qui ont été terminées, tu as eu Je suis de Saint-Sico, tu as eu celle de Petit Veilleux, tant qu'à suivre l'ordre du catalogue. Mais le premier grand, on a été sûr de la victoire là, avec Continuons le combat. Ça, c'était une des premières productions qui a été finie. Puis je me souviens en salle, ça avait été un succès monstre. Et ça, c'est une grande date au niveau des productions. Une autre grande date aussi, ça a été Amouraciste, le petit Vlimeux. Ça a été la première fiction vraiment réussie. Il faut dire que l'équipe, c'était bien dépensé. Tu avais un grand Brian, petit Gravita, il était sur le trottoir. Et puis, il faisait quand même un club de Rue Saint-Laurent. « Entrez, mesdames et messieurs, the show is going on! » Et puis, c'était absolument fou. Et puis, une production aussi qui a été importante, ça a été « Ça met toute une vie, la première. » C'est que là, tu avais... Puis, aussi « SOS Soma. » Ça, c'était fait par des ouvriers, quoique une chose qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'il y avait, il faut garder au générique, une demoiselle Valiquette, qui est une spécialiste en communication, qui donnait bon coup de main aux gars. Mais elle faisait du montage avec eux, tout ça. Elle étudie à l'Université du Vermont, je pense qu'elle est étudiante là, en ce moment. Yolande Valiquette. Mais vraiment, ça, c'était impressionnant. Tu avais Maurice Aymon et son chum qui travaillait à SOS Soma. Les soirs, elle revenait de la shop. Ils mangeaient leur hot dog à côté. Et puis, ils venaient faire leur montage. Ça, ça a été, là, quatre grands moments. Après ça, si tu veux, ça a été... Je dirais pas que ça a été moins emballant, mais là, on a commencé à répéter des succès. Dans le sens qu'il y a eu d'autres productions qui ont été réussies. Mais là, la brèche était faite. Un des problèmes du vidéographe, je dis ça, c'est que il aurait dû peut-être plus changer en cours de route. Mais d'abord, c'était un grand vœu, ça allait bizarre à dire. Quand on est parti, les premières équipes d'abord ont été vidées, et puis il y avait eu des problèmes d'argent puis tout ça qui nous empêchaient d'entreprendre des nouvelles affaires. Quoique, il y a eu Saint-Jérôme qui est dans l'entreprise, le sonographe, tout ça. Mais la nature même du vidéographe, ça aurait pu évoluer bien gros. Mais moi, personnellement, j'avais plus d'imagination pour inventer, fût-ce même au niveau de la production. Et puis, on pensait sincèrement quand on est parti, puis que la nouvelle équipe est arrivée, que là, c'était du nouveau monde, puis que ça shifterait bien gros. Mais finalement, vous avez été coincé avec un budget minable. Vous avez été obligé d'être pogné dans le même cul-de-sac que nous autres. Vous avez reçu votre subvention au mois d'août. Puis il y avait de l'argent. Quand vous avez fait les comptes, payé le loyer puis salaire de tout le monde, il faut juste refaire les mêmes affaires. Fait que finalement, ça a été encore une existence sous la tente d'oxygène, comme on avait connu l'équipe précédente la dernière année. Mais si le biographe s'associe à l'UQAM, ces problèmes de rentrer d'argent en retard, de démarrer le projet avec la moitié de l'année perdue, là, comme ça avait été le cas l'an passé, vous avez reçu votre subvention au mois d'août, le petit compte, il y avait avril, mai, juin, juillet, août, il y avait 5 mois de flambée. Ensuite de ça, le mois d'août, c'est pas un mois pour démarrer les affaires, c'est la rentrée de septembre, avant d'ameuter le monde, puis de les rapailler, vous avez commencé finalement à... Vous êtes sorti de la tente d'oxygène au mois d'octobre, la moitié de l'année était flambée. Mais là, si le vidéographe passe à l'UQAM, c'est que il va y avoir bien des changements possibles parce que il n'y aura pas ces problèmes de liquidité. Puis il va y avoir une facilité un peu plus grande. Il n'y aura pas une facilité plus grande, il y aura une difficulté moins grande d'aller chercher des subventions. Alors, tu penses comme le projet que vous faites. Moi, je vois très bien que justement, au SEN, là, que le vidéographe associé avec l'UQAM fasse une recherche systématique de télévision communautaire. Revamper la vidéothèque qui est ici, avec des productions, là, des TVC. Moi, je braille quand je parlais avec Christian Talbot de Saint-Félicien. Puis il y a eu une série d'émissions faites avec il y avait des jeunes de 12-15 ans. Puis le samedi matin, ils faisaient une émission sur les découvreurs du coin. Puis c'est des petits gars, des petits filles de 12 à 15 ans qui faisaient tout, au porte-à-pac dans le cave. Ils ont fait une quinzaine d'émissions, je pense. Puis il n'y avait plus de tape à un moment donné, puis ils ont effacé ça. Moi, je braille quand j'entends des choses comme ça. Ça peut être une nouvelle vocation de.
Mais le passage du coin. Dans quelle mesure ça va modifier, l'accessibilité à tout le monde, aux moyens de production aussi, si ça va changer quelque chose?
Ça risque pas encore de creuser, c'est le fossé que le vidéographe a eu pendant un grand bout de temps avec des groupes disons, qui étaient plus populaires ou des organismes.
Ce fossé-là dont tu parles avec des groupes populaires et puis les TVC entre autres, ça, je pense qu'on était on a été le principal responsable à mon avis. C'est qu'on avait un peu trop la mentalité. Laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut dire que ça drainait une énergie complètement folle. Je me souviens des journées où il y avait en même temps 40 personnes dans le vidéographe. La première année, là, c'était démoniaque. Ben, tout à fait un projet à ce moment-là. Je me souviens que Forêt et moi, là, des journées, il y avait tellement de monde qu'on se partageait des étages. Même tout ça, on se partageait des moitiés d'étage. Il y en a un qui prenait le théâtre puis l'entrée, puis il y en a un qui prenait l'arrière, et puis Là, on séparait le monde. T'sais, on regardait la quantité qu'il y avait, puis on les soumis d'un bord puis de l'autre de la grande porte, là, à feu en bas. Puis on disait à Roselyne et Monique, faites ce que vous pouvez au deuxième. Alors là, Roselyne faisait dans ses comptes, puis là, Monique, elle faisait ce qu'elle pouvait. C'était complètement fou. Alors, on n'avait pas l'énergie pour entreprendre les démarches auprès des TVC. Mais ensuite de ça, c'est que... Mais il y a eu des moments donnés où on aurait peut-être... On aurait pu être plus recevant. Tu sais? Je veux dire... faut pas dire ça. Quand ils venaient, on était bien gentils avec eux. Mais je veux dire... Il aurait dû y avoir des... Il y avait des réticences de leur part aussi. Mais si on avait mis l'énergie qu'il faut, ça serait bien vite tombé. Mais l'énergie, on ne l'a pas mis parce que finalement, on n'en avait pas. On n'en avait plus. C'était un malentendu, d'un bout à l'autre, nos rapports avec les TVC. C'est encore ça, d'ailleurs. Puis là, il est arrivé d'autres incidences dans le portrait, comme le CDMCQ, tout ça. Puis, ben, mon Dieu. Salut, Pascal. Il y a eu du monde, comme la gang du CDMCQ, qui ne nous aimait pas trop. Et puis, il y a eu d'autres malentendus. C'était jusqu'à un certain point, un avortement de nos relations avec les TVC. Parce que, comme par exemple, la technique, ça fait toujours un peu peur au départ. C'est toujours un peu rébarbatif. Puis, on avait une réputation de technicien, de ne pas s'occuper du fond, alors que c'était complètement faux. Et puis, vis-à-vis des groupes, pour qui l'idéologie était très importante, on était très bâtards. Puis, vu de l'extérieur, je veux dire, on donnait prise à toutes leurs hypothèses. On était financés par la fédérale. On promouvait la technique. Puis, on avait la réputation de s'occuper plus ou moins du fond. Alors, ils n'ont pas creusé plus loin. Puis, je les accuse pas parce que nous autres, par rapport à eux, on n'a pas creusé plus loin non plus. Fait que c'était... J'ai l'impression que c'était un gars et une fille du même quartier qui auraient dû sortir ensemble, puis qui ont vraiment été se demander l'un à l'autre pour aller au lit samedi soir.
Parce que, le vidéographe, à partir du moment où il a laissé l'office, il y avait une bonne part du budget qui était réservé aux médias communautaires qui allaient au vidéographe.
Ah oui.
Quasiment la moitié, je pense, sur 400 000, il y avait 200 000 qui venaient ici. C'est peut-être ça aussi qui a mis en estime
sûrement.
Les groupes. Les TVC qui avaient 5-7 000 piastres pour fonctionner pendant un an, alors qu'ici, il y avait 200 000.
Ouais. Moi, j'aurais été à leur place. C'est ça, il n'y a jamais eu d'explication. J'aurais été exactement dans les mêmes dispositions hostiles. Par contre, il faut dire que les quelques fois qu'on est allé en province et tout ça, les rapports avec eux ont toujours été... Ils ont toujours été très, très corrects vis-à-vis de nous. Je me souviens pas d'un endroit où on a fait un Selecto TV, où qu'on soit allé, où on a été mal reçu. Il y a eu des discussions, ben ça c'est Robert qui était surtout, puis Pierre Vavrade, il pourrait t'en parler. Il y a eu un moment donné des discussions fermes qui ont lieu, mais il a toujours été correct. On ne s'est pas connus.
Toi, disons, au niveau de ta conception d'utilisation du porte-à-pack, t'en as-tu une conception qui identifie le médium que tu as choisi, que tu utilises le demi-pouce, ou bien si tu t'en sers comme un palliatif au sens où ben, c'est moins cher, ça te permet de produire peut-être plus à ton compte, ou...
Toute la production du vidéographe, alors, peut-être deux ou trois affaires, c'est du cinéma électronique. Son utilisation du demi-pouce, c'est du cinéma électronique. Je regarde les productions que j'ai faites moi-même. C'est du 16 qui coûte pas cher. Je dois dire que j'ai toujours trouvé très intéressantes les expériences, par exemple, de feedback et tout ça. Mais j'ai pas le goût d'en faire. Je trouve ça fun d'en regarder. Mais moi, j'ai pas. Ça ne m'attire pas. Par contre, il y a tout un domaine du demi-pouce qu'on a volontairement rayé là, du vidéographe, c'est tout le processus animation. Non pas que qu'on trouvait que c'était une utilisation mineure du demi-pouce, mais c'est qu'à ce moment-là, il y avait d'autres projets, tant le ONF qu'à l'extérieur de l'ONF, où le porte-à-pack est utilisé pour de l'animation. Mais nous, on avait volontairement choisi que toute utilisation de nos porte-à-pack menait à un projet de production très précis. Alors, si tu veux, ça faisait pas partie de nos critères, l'animation.
C'était pour quelle raison vous aviez déterminé ça, ces priorités-là?
Parce que, avant le vidéographe, les productions en vidéo ne se terminaient jamais, ne se montaient jamais. Je me souviens, à l'ONF, il y avait des projets où le demi-pouce avait été utilisé. On enregistrait tout. On enregistrait des réunions, des discussions, tout ça. Et puis, c'était bien fun pendant que ça se faisait. Premièrement, le fait qu'il y avait des caméras, ça motivait les gens. Et puis, ça les glamourisait aussi. Mais il n'y avait pas un crétin qui voulait monter ça après. Premièrement, parce que c'était plate. Puis, deuxièmement, qu'est-ce que ça apportait? Alors, nous, les gens, premièrement, moi, je les blâme pas trop de ne pas avoir dépensé de l'énergie à ce moment-là pour monter production, parce qu'il n'y avait pas de distribution. C'est pour ça qu'on a démarré. Finalement, ce que le vidéographe a institué, c'était un réseau de distribution de demi-pouces. Ça, c'est aussi important que toute la production. Il n'y en avait pas. Ça ne circulait pas. Et la première année, la distribution a été très difficile. Je regarde les statistiques, il y a eu peut-être 400 vidéogrammes de distribués. Premièrement, parce que le réseau n'était pas constitué. Puis deuxièmement, parce que les gens n'y croyaient pas. C'était nouveau. Tu envoyais ta bande et puis on imprimait dessus une production, puis c'était gratis. Les gens pensaient que c'était un attrape-nigo. Tu sais, comme quand tu sois un disque par la poste, on dit qu'il est gratuit. Mais après ça, il faut que tu en achètes 12 autres, puis tu te payes 3 fois. Les gens pensaient que c'était ça. Et là, à ce moment-là, on a joué bien gros la corde ONF. Et là, les gens se sont dit, c'est ONF.
Ça doit être vrai.
Ça doit prendre pas trop se faire jouer, ça va être vrai. Parce qu'on loue leur film pour 2 piastres. Mm-hmm. Ou même pour rien. Ouais. Alors les gens commencent à me croire. Ça pue, hein?
Le fait aussi que le vidéographe, en fin de compte, a reproduit les mêmes structures de participation là, que l'Office national du film. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de comité de programmation, directeur de production, chargé de projet, puis le responsable d'équipement technique, ces choses-là. Ça peut-tu avoir influencé, disons, l'utilisation du médium?
Je pense pas que ce sont des structures. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que tu regardes notre télévision, puis notre cinéma, le candid, la caméra à la main, on s'en rend même plus compte. C'est devenu une deuxième nature ici. Alors, tu regardes la télévision française, par exemple, ça leur a pris du temps avant de descendre dans le rythme Kodak. Moi, je me souviens, quand j'ai fait l'IDEC, c'était en 61, il y a un Anglais, il y a une caméra 16. Et puis, à un moment donné, il a enlevé du trépied puis il a fait un plan à la main. Il a suivi quelqu'un qui montait dans un escalier. Puis là, devant toute la classe, les professeurs l'ont traité de ridicule, de rétrograde. Moi, ce que j'avais appris à l'IDEC, c'était le cinéma de Marcel Carné. Puis, je me souviens des émissions françaises que j'ai vues à cette époque-là. C'était, des découpages techniques bien précis, puis tout ça. Je sais pas si c'était ici, il y a 2 ans, la télévision française était venue. Ils ont fait une émission sur le vidéographe. Et puis, tout se faisait sur le trépied, inutile de vous dire. Mais deuxièmement, tu avais les plans de raccord. C'est-à-dire qu'on ouvrait la porte, on rentrait au vidéographe, tu rentrais par le cadre gauche et tu sortais par le cadre droit. C'est exactement comme un long métrage. Et puis, les plans de coupe, il y avait un script qui surveillait des raccords. Elle disait, bon, placez-vous là, parce que dans le plan précédent ce matin que va suivre au montage, vous étiez là. Bon. Alors, ici, ça fait 15 ans que la caméra se promène au point avec tous les films de l'ONF. Et puis, c'est pas rien que l'ONF, c'est Radio-Canada aussi. Le style de tournage, c'était. Il y avait une inter-influence. Les films de l'ONF passaient à la télévision, puis les gars de Radio-Canada regardaient ça, puis ils découvraient même d'autres trucs qu'apprenaient les gars de l'ONF, et puis tout ça. Alors, quand le vidéographe est arrivé, cette espèce de caméra au milieu du monde, qui avait la même respiration que les gens qui étaient filmés. C'était une deuxième nature, puis on s'en est même pas aperçu. On s'en aperçu. Les gens, ils faisaient, si tu veux, du candid, comme M. Jourdain faisait de la prose. Ils ne savaient pas qu'il y avait deux types de cinéma, une espèce de cinéma classique. Et puis, cette espèce de cinéma instinctif. Alors, et ce deuxième type de cinéma correspondait tellement aux vidéos que ça s'est fait tout seul. D'ailleurs, les gars de l'ONF ont commencé à expérimenter le demi-pouce, et non pas les gars de Radio-Canada. C'était une des raisons, c'est qu'ils ne se sont pas demandé c'est quoi le 2 pouces, c'est quoi le 1 pouce, c'est quoi le demi-pouce. Ils se sont dit, tiens, voilà un Kodak pareil comme la Reflex ou l'éclair. Puis même l'avantage qu'il y a, c'est que la prise de son est pognée après. Alors que,
si tu veux, c'était l'utilisation bien simple.
C'était l'utilisation, il n'y a même pas quelqu'un qui a pensé. Tu sais, ça a été, ça va remplacer le 16. Parce que ça coûte moins cher. Puis coûtant moins cher, n'importe qui peut le prendre. Ça pouvait être fait n'importe comment aussi. Ouais. Parce que si tu regardes dans la logique même des choses, ça va être Radio-Canada qui expérimente le demi-pouce.
Ouais.
Mais Radio-Canada, ils faisaient beaucoup plus de studios que le Candid, premièrement. Et puis pour eux, si tu mets la grenouille, l'ancêtre de la grenouille, puis tout ça, ben le demi-pouce était accroché aux vidéos 2 pouces. Normalement, dans la logique darwinienne, c'est pas ça qui est arrivé. C'est des gars du cinéma qui l'ont rattrapé.
Toi, disons, quand tu as utilisé, je pense par exemple au document que tu as fait en Angola et à Haïti.
Oui.
Quand tu l'as fait, c'était pour la chaîne Radio-Canada, je pense. C'est-à-dire, c'était pour être montré
à la télévision.
Mais sur de grandes chaînes.
Oui.
Est-ce que quand tu l'as conçu, toi, quand tu l'as fait, disons, t'avais-tu une espèce de... Bon, au préalable, ta démarche allait-tu dans ce sens que tu savais quel type de diffusion t'allais avoir ou
oui.
sur laquelle t'allais passer, puis tu le faisais dans ce sens-là?
Oui.
Et puis, est-ce que tu penses que les documents demi-pouce ou l'utilisation qu'on devrait en faire, est-ce que ça devrait être plus axé sur une forme de diffusion, par exemple, par groupe ou ben non, par... comité ou par atelier, ces choses-là. Tu vois-tu, toi, une dissociation, par exemple, entre le film où on distribue dans les grandes salles
oui.
et puis le médium demi-pouce, un type de diffusion qui serait plus précis à lui. Ou ben non, si c'est très interchangeable, puis il n'y a pas de spécificité non. sur le médium comme tel.
Non, de même qu'avec le demi-pouce, tu peux faire de l'animation, ben, tu peux faire des productions. Là. Que tu peux faire des expérimentations au niveau esthétique, comme Boyer, puis tu sais que là. Ou tu peux faire du long métrage, comme Bouteille. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant avec le demi-pouce, c'est que, étant donné qu'il coûte un petit peu cher, tu peux faire une production pour 10 personnes. Mais, le fait qu'il coûte un petit peu cher ne l'empêche pas d'avoir des qualités broadcast. Tu sais, en fait, c'est un peu comme un gars qui écrit des poèmes. Il écrit des poèmes, puis il va vendre son livre la première fois 100 exemplaires, pas plus que ça. Puis 10, 15 ans après, ça peut être vendu 25, 30, 100 000 exemplaires. Bon. Regarde un gars comme Miron, je veux dire, ses premiers poèmes étaient dans des revues, puis aujourd'hui, tu es obligé de courroyer dans les bibliothèques pour les trouver avant qu'ils fassent l'homme rapaille. Bien, la vidéo, ça va être un peu la même chose. Tu vas avoir des productions qui, tout de suite, peuvent rejoindre bien les spectateurs, comme un roman à grand succès. Puis, tu as d'autres productions qui pourront traîner dans un tiroir pendant un bon bout de temps. À un moment donné, tu pourras sortir ça, puis ça pourra avoir une grande valeur. Puis, ça pourrait être diffusé à ce moment-là, si ça a été fait correctement. Mais il n'y a rien qui empêche le demi-pouce de remplacer le 16 mm au niveau broadcast. Je ne dis pas pour tout, là, mais par exemple, pour tout ce qui est de la nouvelle, toute information. Tu regardes aux États-Unis, ça a commencé d'ailleurs. Et puis, on est en noir et blanc. Quand la couleur va être parfaite, là, à mon avis, le 16 va disparaître de beaucoup de... On va retirer au 16 beaucoup des utilisations qu'il fait en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est la mort du 16 mm. Pas du tout. C'est que ça va préciser 16 mm. Tu as une texture d'image avec le 16 qui est complètement différente du vidéo. C'est la peinture à l'huile puis le fusain. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ce qui va arriver, à mon avis, c'est que le 16 peut s'améliorer grandement. J'ai eu des expériences de Super 16, mais c'est bien évident que les compagnies ne sont pas intéressées au Super 16 parce qu'on vaut beaucoup moins d'argent. Hein? Puis finalement, tu regardes toute la surface que tu perds sur un film 35 mm, et puis quand c'est ton film est distribué harmonieusement là, sur un 16, un Super 16, il n'y a pas grande différence entre les deux. Parce que l'espace que prend ton film vraiment sur du 35, c'est peut-être 20 mm. Enlève les perforations d'un bord, enlève la piste sonore de l'autre bord, enlève ça, enlève ça. Fait que si ton négatif de tournage est en 16 mm puis que tu prends toute la surface, puis il y a moyen de faire ça, quitte après ça à faire ta piste de son puis tes affaires-là sur du 35 mm, mais là au tournage, tu sauves mon vieux. C'est extraordinaire. Il va y avoir une revalorisation du 16, c'est qu'on va l'améliorer. Le 16 mm qui n'a pas été amélioré depuis 1960, depuis qu'on a sorti des pellicules. La couleur, oui, il ne faut pas dire ça. La couleur est améliorée parce que c'est beaucoup plus sensible à la lumière. Ça. Mais en dehors de ça, la définition du 16 n'a pas changé. Ils peuvent l'améliorer, ça aussi, s'ils s'y mettent. Mais jusqu'ici, ils ne l'ont pas amélioré parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire. Mais étant donné maintenant que le demi-pouce va le remplacer dans beaucoup de domaines, puis que même quand tu auras la couleur parfaite, que là le demi-pouce, ça va commencer à prendre, à faire du long-métrage, on va faire du long-métrage avec, là, les grosses compagnies de 16, ils vont avoir intérêt à revamper notre chasse. Ben, la première, je vais dire, moi, tu sais, l'intérêt était positif, c'est que moi, j'étais convaincu que ça pouvait passer à la télé. Parce que d'abord, ça avait été fait ailleurs avant. Mais je me suis dit, Ciboire, ça va passer à CBC. Ils ne sauront peut-être pas, mais ils vont en passer du demi-pouce malgré eux autres. C'est ça qui est arrivé, ils ne savaient pas que c'était du demi-pouce. Il y a le réalisateur qui le savait, mais demi-pouce, un pouce, deux pouces, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Ils savaient ce que c'était, mais ils ne savaient pas ce que ça impliquait. Et puis quand j'ai été avec mon montage était sur du 1 pouce. J'ai fait mon montage sur du 1 pouce, pas parce qu'un pouce était meilleur, parce que j'avais besoin d'un time base, puis il me fallait celui de McGill. Puis à McGill, le montage se faisait sur du 1 pouce. Alors, puis moi, en même temps, je voulais arriver avec du 1 pouce, parce que là, à ce moment-là, les gars de Radio-Canada, ils s'imaginaient que j'avais fait ça en 16, je transférais ça en vidéo, je ne sais pas trop quoi. Mais il n'y avait pas de demi-pouce dans le portrait. Il y a juste un technicien qui s'en est aperçu. Il était micro-ôté. Un gars bien sympathique, puis moi, il disait à l'arrêt, il dit, as-tu fait ça en demi-pouce? J'ai dit oui, puis il est parti à l'arrêt.
si on regarde voir les implications de tout ça, ouais. Pour moi, en tout cas, il y en a deux. Il y a des gens qui ont dit à un moment donné que le vidéographe, c'est un élément de distorsion de la réalité, en ce sens que ils encourageaient le bénévolat. C'est-à-dire que toutes les productions étaient basées sur le bénévolat du personnel. Et puis que quand les gens avaient appris, disons, l'utilisation du médium, il n'y avait pas de structure pour les encadrer après, pour qu'ils puissent continuer à utiliser le médium. Ce serait quoi, toi, ta perception de ça?
Moi, je suis bien conscient de... dans une minute. La question. Cette année, c'est vrai que s'il n'y a pas quelque chose qui se fait, là, moi, je considère que de la part du vidéographe, je ne dirais pas que c'est une inconséquence, mais que c'est se fermer les yeux, c'est un problème. C'est qu'il y a au moins une quinzaine de personnes qui ont fait des vidéos ici, qui sont rendues à leur deuxième, troisième, etc., qui ont autant de talent que non seulement les gens qui font un premier film à l'ONF, mais des gens qui ont réussi à se maintenir à l'intérieur de la chasse gardée. Robert a regardé les premières œuvres cette année. Il m'a dit que c'était bien inférieur à beaucoup, aux meilleures productions du vidéographe. Là, c'est bien bizarre ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas reçu une scène de Québec. comment faire de l'argent. Là, on est bloqué de, parce qu'on ne peut pas soumettre le projet de vidéographe en tournée. On ne peut pas faire ça. Pour la simple bonne raison que c'est doublé le projet avec le QAM. Alors là, moi, j'ai parlé avec la Monde, justement, j'ai dit, on va te faire... tu vas nous signer un contrat. On va faire des tapes pour faire des productions. On va avoir un contrat, disons, 25 000 $ pour faire 12 productions. Là, c'est bien sûr qu'on va être obligé d'engager du monde. Puis on va les payer salaire correct, là. Ça ne sera pas du bénévolat. Bon. Il y a, là, lundi prochain, je m'en vais aussi à l'éducation des adultes chercher d'autres contrats. Finalement, la seule façon que le vidéographe va pouvoir faire de l'argent, ça va être en devenant une maison de production. Parce que il faut qu'on vende des services. Quel service qu'on peut vendre? Il n'y en a pas 50 000. Bon. OK. Et puis là, moi, je travaille bien gros là-dessus, comme il y a Centraide, la Fédération des œuvres, ils ont 10 000 bénévoles. Les gars sont obligés de répéter 8 fois par jour les mêmes histoires. Alors, je sais pourquoi vous n'enregistrez pas ça sur Bobine. Vous autres, vous pourriez avoir votre propre studio avec un gars. Et puis, si tu veux, j'essaie de leur vendre, j'essaie de créer des postes, puis moi, je sais qu'il y a bien du monde ici qui pourrait les remplir. Vous pourriez enregistrer, par exemple, des conseils d'administration, puis vous mettez ça sur une bobine. C'est quoi le conseil d'administration? Va donc répondre, c'est quoi? Ensuite de ça, expliquer la campagne elle-même, les objectifs, tout ça. Mais ça pourrait aller plus loin que ça, c'est comme le demi-pouce, c'est broadcast maintenant. Les petits postes de télévision, comment que ça fonctionne? Le Parti libéral, pendant la dernière campagne électorale, ils sont toujours en onde. Pourquoi? C'est qu'ils font un film, aujourd'hui, là, lundi, ils l'envoient au laboratoire. C'est développé dans la nuit, les copies sont faites, c'est monté tout. Puis le lendemain, c'était qui?
Jocelyne vient de me dire que ton chum préféré s'en allait aux toilettes.
Chum préféré?
Ouais, elle dit le pusher.
Ah. Oh, il s'en va mettre de la drogue là, pour faire un relais. On va y régler son gars une bonne fois. Pinelli? Il est ici, Pinelli? Il devait venir hier, demain, lui. Tiens un peu. Bon. Alors, bref, on essaie de ramasser de l'argent en devenant plus ou moins une maison de production. Puis là, on a des contacts à faire avec le GME. Le groupe Centraide, l'éducation des adultes, etc. C'est qu'une fois qu'on... Ça, d'abord, ça va donner des jobs au monde qui ont fait du bénévolat, aux vidéographes, parce qu'on ne pourra pas assumer toute la production. Mais deuxièmement, un coup que les précédents seront créés, il y a bien du monde ici qui pourront se partir des compagnies. Parce que finalement, il y a moyen de partir d'une compagnie sans se mettre dans le trou financièrement. C'est-à-dire que tu peux... je regarde Québec Vidéo. O'Brien, il réussit à vivre. Tiens, puis... Alors, c'est possible de se démarrer une compagnie parce que tu n'as pas besoin d'une mise de fonds. Finalement, supposons que vous deux, vous partez une compagnie. Ce que tu fais, c'est que tu as un contrat. Alors, tu loues l'équipement. Et tu peux louer l'équipement avec... par exemple, tu peux louer au vidéographe, mais tu peux louer ailleurs aussi. Que
promesse d'achat.
Avec promesse d'achat. Alors, il s'agit d'avoir finalement...
un roulement.
Avec un bon contrat d'abord, là, tu peux t'acheter ton porte-à-pack en partant. Ouais. Moi, je proposerais ça, que les gens s'achètent un porte-à-pack d'aplomb. Puis le montage, ça coûte plus cher, 2,36,50, ouais. Et puis... Là, on fait les montages aussi. Ouais. Ouais. Puis même, ce que tu peux faire, c'est que moi, je vais partir à une compagnie, là. Je m'achèterais deux magnétoscopes, un vieux magnétoscope, là, tout croche. Là, tu sais.
Ouais.
Et puis, tu fais ton montage chez vous, avec ton pré-montage avec deux magnétoscopes portatifs. Puis là, tu arrives ici, tu fais ton montage final, là, et tu sais où tu t'en vas, 2 jours finalement, puis tu sors la demi-heure. Fait que là, c'est la meilleure façon de procéder. Ouais. Mais ça, une fois que ça aura démarré, une couple d'endroits. En fait, si Québec Vidéo, s'il avait pu continuer, il y aurait eu un mouvement d'entraînement derrière eux. Mais ils n'ont pas continué pour 56 raisons. Bon, fait que moi, j'essaie de me débattre là-dedans. Et moi, j'imagine que d'ici un an, il va y en avoir des productions en vidéo. Alors que là, finalement, on s'est encore agrippé aux 16, qui coûtent plus cher. Et puis notre monde, là-dedans, dans le 16, ne se risque pas. Moi, en Angola, je ne me serais pas risqué avec une caméra 16. Tu sais, c'est un autre métier.
Ouais.
Je veux dire,
ça t'aurait impliqué une équipe de production à ce moment-là, presque.
Ben, c'est arrivé que des gars ont fait du 16 tout seul. Max, c'était beaucoup plus lourd à transporter. Ouais. Mais c'est arrivé. Mais moi, personnellement, je m'en vais en Afrique avec un caméraman, puis il tombe malade. Je veux dire, je suis capable de me débrouiller, faire de la photo. Mais je serais pas parti avec du 16 parce que là, ça aurait été mettre en danger toute la production. Je sais pas si ça aurait été bon. Tu sais, j'ai fini le mariage de ma sœur, puis c'était bien beau. Mais je veux dire.
Non, on fait de la production en Angola avec du vidéo pour finir le mariage de sa sœur avec du 16.
Ouais, ben ça, c'est que mon autre sœur avant, alors que le vidéo n'existait pas, je l'avais filmé en 16. Oui, j'ai pas qu'il y ait de chicane dans la famille, des films en 16, lui aussi.
Tout ce côté-là, tu sais, ça. Ça a un aspect au niveau de la production commerciale.
Mm.
Parce que ça sous-entend ce type de production-là qui va donner un débouché. Là. Un type de production qui est relativement commercialisé. Ça permet aux gens de vivre, ça permet aux gens d'avoir des productions qui assurent, bon, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir se payer des cannes de spaghettis de temps en temps. Mais au niveau de la standardisation du médium, par exemple, dans quelle mesure c'est intéressant d'utiliser le demi-pouce pour peut-être à un moment donné viser une distribution ou une diffusion plus grande, c'est-à-dire qui donne un impact réel dans le milieu. Par exemple, bon, on pense aux films, comment ils ont été distribués aux films sur la femme, là, par exemple, la série de films de l'ONF.
Mm-hmm.
Ça aurait été possible de faire ça en vidéo puis d'avoir le même impact. Ça sous-entend que le vidéo demi-pouce peut être broadcast, mais dans la mesure où techniquement c'est possible qu'il soit broadcast, est-ce que les chaînes de télévision Radio-Canada, TVA, ainsi de suite, accepteraient de diffuser?
C'est pas un problème technique, ça. C'est est-ce que les. Quelles vont être. Oui, ça peut se contourner de la façon suivante. C'est que je pense que Radio-Canada, les syndicats vont exiger que le même nombre de techniciens se pendent après le porte-à-pac en 16 mm. Mais pour eux autres, à ce moment-là, ça ne sera pas tellement une économie. Parce que c'est pas la pellicule. Pourquoi que le 16 couleurs, ça coûte très cher? Mais le noir et blanc, finalement, ça coûte. Pour ce qui tourne, c'est, tu regardes sur un budget de film, c'est peut-être la pellicule, l'occasion des caméras, c'est même pas 10% du budget total. C'est pas sauver de l'argent tant que ça. Mais pour des gens. Je parle de bénévolat, là. Par exemple, vous autres, vous voulez faire un film. C'est sûr que tous les salaires sont investis, puis tout ça. Et à ce moment-là, la location de l'équipement, l'achat de la pellicule, même si sur le budget total, une fois que tout le monde est payé, c'est 10% de la production, pour votre cash, là, c'est probablement 90% de votre cash. Sinon, 100%. Alors là, ça peut modifier des choses.
Mais, un autre niveau, par exemple, s'il y avait un tape à un moment donné qui sortait du vidéographe qui vraiment au niveau de l'impact qu'il pourrait créer, au niveau de l'intérêt qu'il pourrait susciter, nécessiterait une diffusion broadcast.
Oui. Est-ce qu'il pourrait passer?
Est-ce qu'il pourrait passer techniquement? Pas seulement techniquement, mais politiquement aussi.
Ça, il faudrait le demander à Radio-Canada. Techniquement, il n'y en a pas de problème. Là. Le truc que j'ai fait en Haïti, il a passé. Il y avait même une étape qui manquait d'équipement, il n'y avait pas de timebase. Puis ça a tenu, tiens, comme ça. Fuck. Monter avec une machine à un pouce qui coupait mal là-bas, ça. Puis un porte-à-pac échappait à terre. Jean-Guy s'est trompé. J'étais en Haïti. Puis le porte-à-pac qu'il m'a envoyé, David est venu pendant la nuit. Puis c'était un porte-à-pac qu'on n'a pas encore réussi à réparer. Comme il faut, le signal de tout croche. Puis ça a réussi à passer partout. C'est quasiment la preuve par l'absurde, tu sais, que c'est possible. Moi, je pense que. Regarde. Radio-Canada, quand ils achètent des films, ils ne s'occupent pas du tout si ça a été fait selon les normes syndicales ou pas.
Mm.
Ils achètent une production à une maison privée. OK? Alors, il pourrait arriver qu'ils vont acheter un produit fabriqué en demi-pouce plutôt qu'en 16 mm, puis eux autres, finalement, ils vont s'en sacrer. Alors là, ça va être aux producteurs de s'entendre avec les syndicats. Moi, j'ai bien peur de l'attitude du syndicat dans tout ça. Le problème, il va être là. Finalement, Radio-Canada, au mois de septembre, il y a une émission, l'actualité. C'est de l'actualité, c'est de 6 à 7.
Ouais.
Et ils sont équipés avec deux machines 3 quarts de pouce pour faire du montage. Ils vont faire du montage 3 quarts de pouce. Ils vont commencer à tourner, je pense, avec du portable.
Ouais. Demi-pouce.
3 quarts.
3 quarts. Compte tenu là, du développement de plus en plus commercial, là, en tout cas de la nécessité d'avoir une section commerciale qui va assurer un certain roulement de fond. Là.
Oui.
Et puis, le côté culturel, qu'est-ce qui va arriver avec cette époque-là?
Ben, jusqu'ici, le côté culturel il est assumé par le Conseil des arts, finalement, en totalité. C'est pas jusqu'à un certain sens, cette année, le commercial que l'on fait, il supplée à la subvention qu'on n'a pas eue. On n'a pas encore une maudite scène. Alors, la vente de l'éditeur. Si on avait eu la même subvention que l'an passé, plus ce que vous nous rapportez la vente de l'éditeur, plus ce que vous nous rapportez toutes les obligations qu'on fait, là, je veux dire, on aurait pu amorcer d'autres projets. Mais là, avec le Conseil des arts, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se répète. 68. Puis je veux dire, c'est pas le Conseil des arts qui était abîmé là-dedans. Je veux dire, puis c'est même pas Québec cette année. C'est un ensemble de circonstances. C'est que là, on est obligé de soumettre des projets de grenaille pour ne pas co-circuiter toutes les démarches du CEN. C'est-à-dire, centre.
L'étude de l'éditeur média.
Expérimentation.
Moi, je voulais le soumettre tout de suite au mois de septembre, tout de suite, là, le projet de vidéographe en tournée, en disant ceci. Quand ça deviendra le CEN, il y en a un qui a switché l'argent, puis tout ça. Ils ont dit non, tu vas tout bloquer la machine pour 4-5 mois. Alors là, je suis obligé de soumettre un projet de grenaille, puis un projet de 3 mois.
Vidéographe en tournée,
non, vidéographe en tournée, je ne peux pas le soumettre. Là, ça va être des productions. OK? Et puis après Noël, si le CEN n'est pas encore réglé, moi, à mon avis, ça va se régler au 31 mars, en tout cas. Là, expérimentation de la couleur. En demi puis trois quarts.
Mais je veux dire, ouais, OK. Mais le monde qui vient de produire ici, je veux dire, dans tout ça, comment je veux dire, il y a encore des gens qui présentent des projets, ouais. Tout ça.
Toute la structure du vidéographe reste pareil, je veux dire, au sens où il y a des gens qui vont venir.
Moi, ce que je trouve de plus intéressant actuellement au vidéographe, c'est Saint-Jérôme puis c'est Saint-Jérôme. Parce que la nature même des productions n'a pas changé. Alors, on répète ce qu'on a déjà réussi.
Comment ça s'est attribué? Moi, je ne comprends pas ça.
Non, mais vas-y.
Depuis, ça fait 4 ans à peu près, que le vidéo... C'est la 5e année, je pense, qui va commencer. La 5e saison qui va commencer. Puis, il n'y a pas eu de... Il me semble de changement au niveau de la... L'utilisation, là, pas pour en faire nécessairement quelque chose de parti là, au coton, mais au niveau du type de document, de l'approche, ça a toujours resté à peu près la même chose. Puis remarque que moi, c'est aussi valable pour moi, je pense à mon premier tape, toutes les tapes que j'ai faites. Là, il me semble qu'il y a toujours eu la même forme.
Le Conseil des arts, on est 22 000 piastres en semaine. Ça ne mettait pas ça, là, ça va faire la merde.
À quoi?
Le projet Floralie.
Ouais.
Il est 22 000 piastres. Il n'y a pas une production qui va sortir de là. Ou une ou deux. Hein? Puis qui aurait pu sortir sans ce projet-là. C'est que dans le cadre habituel de bénévolat du vidéographe, les gens viennent faire une production, peut-être une deuxième. Et puis, tu ne peux pas demander à des gens qui commencent d'inventer.
Ouais.
Ils répètent des comportements des précédents.
Ils tentent le média.
Bon, c'est ça. Ils s'apprivoisent mutuellement. Ce qu'il faudrait, c'est que tu as un projet, mettons, du Conseil des arts. Le 22 000 piastres qu'on donnait à Floralie, là, tu prends les 3-4 bonhommes là, ou bonnes femmes là, qui ont fait des vidéos comme il faut, puis même tu peux aller plus loin que ça. Tu leur donnes un salaire, OK? Puis là, tu leur attribues, ils travaillent au vidéographe. Si tu veux, le vidéographe devient pour eux un centre de recherche, mais un centre de recherche, ils ne sont pas obligés de travailler de nuit dans la cave, puis tout ça. Ils ont leur porte-à-pack, ils ont leur module de montage, puis tu peux leur donner une section. Ils font leurs expérimentations, puis ils ont un salaire. Là, ils vont faire avancer l'affaire.
Puis ils produisent.
Faut qu'ils produisent. Ouais. Là, ils vont systématiquement, je veux dire, t'as un projet de recherche. Toi, t'expérimentes telle affaire, un troisième, une autre, puis un quatrième, une autre. Là, ça va avancer. Mais tant qu'on va rester avec la même démarche qu'actuellement, on va toujours se répéter. Puis ça pourra pas changer. Parce que c'est toujours du monde qui commence. Hein? Il y avait l'éternel retour de Jean Cocteau. Ouais. Si nous autres, c'est l'éternel recommencement.
Mais tu penses pas que ça serait une bonne chose, par exemple, qu'au niveau des opportunités du programme, tout ça, que ça se modifie radicalement, puis que les outils soient pris en main par le monde qui ont produit ici, puis qui poussent leurs expériences là, beaucoup plus loin.
Tu veux que je veux dire?
Par exemple, au niveau de Montréal, on a bien de la misère, par exemple, à avoir de l'équipement. C'est-à-dire de l'extérieur du vidéographe. C'est difficile d'avoir de l'équipement parce que tu as le vidéographe qui est ici puis qui draine un bon paquet d'énergie. Là. Puis le ministère des Communications, le Conseil des Arts, ils nous disent vous n'aurez pas de subvention, le vidéographe, il est là pour ça. Alors, ça, tu te situes dans une position bien, bien complexe. D'une part, je veux dire, tu veux pousser des affaires bien, bien loin puis tu n'as pas d'équipement pour le faire en étant autonome, là, en dehors du vidéographe. Puis sinon, quand tu passes par le vidéographe, bon, mais là, tu as un comité du programme, puis tout ça, il y a un certain nombre de critères, puis de monde qui sont là-dessus. Moi, je me demande dans quelle mesure ça serait pas une bonne chose que les moyens de production qui sont ici, là, reviennent à ceux qui ont réalisé des documents, puis qui poussent plus loin leurs affaires, font de l'intervention avec leurs choses.
Tu veux dire ceci qu'à un moment donné, mec, moi. Comment donner, on a une subvention du Conseil des Arts. Il n'y en a plus de comité du programme. C'est le monde qui a déjà fait des vidéos. On dit la subvention, c'est éteint. Organisez-vous avec. Faites pas rien contre, sauf que ce qui est arrivé cette année. On arrête là-dessus. Supposons là, que le 1er avril, là, on continue de la même façon. Là. Supposons qu'il n'y a pas de scène. Et puis qu'on a une subvention de Québec. Supposons, là. Ou qu'à ce moment-là, la section commerciale a pris de l'envol et n'a pas assuré le fonctionnement de la boîte. Moi, j'aurais rien contre, au contraire, à prendre toute la subvention du Conseil des Arts. Et puis à dire aux gens qui ont déjà fait des productions ici, là, montant sur la table, vous savez, 23 000 au mois de juin, 23 000 au mois de novembre, puis 23 000 au mois de janvier. Administrer ça, les produits, ce que vous voulez. J'aurais rien contre, au contraire. On ne pourrait pas avoir des productions moins intéressantes. La cueillette ne serait pas moins bonne, j'en suis convaincu, qu'est-ce qu'on va ramasser cette année. Ça, je suis tout à fait. M'a dit bien franchement, si jamais le scène, ça ne se concrétise pas. Et puis là, cette année, on calcule qu'on va aller chercher avec la section commerciale autour de 40 000 piastres, 40 000, 50 000. Puis que l'an prochain, une fois que ça sera tout démarré, ça qu'on peut aller chercher un 100 000 piastres. Finalement, on pourra se passer de Québec, ce ne sera plus une utopie. Moi, je n'avais pas pensé à ça, puis ce que tu me dis, j'ai réfléchi. Là, à ce moment-là, justement, pourrait se faire toutes sortes d'expérimentations. Là. Ça pourrait être ça, ou bien, ce que je te disais tantôt, on a 68 000 piastres, on n'engage pas de responsable de la production, et c'est rien de ça. Puis là, de toute façon, on n'a pas engagé, je fais deux rôles. Là. Et puis, le vidéographe administre bien différemment sa subvention. C'est que tel groupe reçoit tel montant d'argent pour faire tel type d'expérimentation, puis ils ont un salaire, ce qu'on parlait tantôt.
Parce qu'une des choses qui avait été faite par les groupes populaires à Montréal ou par le CDMC, c'est que il y avait, quand tu faisais une production au vidéographe, tu n'avais pas de contrôle sur ce que tu faisais, par exemple, sur la distribution, puis tout ça. Sur le tape resté ici, bon. Puis ça, c'est un des problèmes majeurs qui a vraiment freiné le tout, un peu le développement du site. C'est-à-dire que le monde était un peu rébarbatif à venir ici. Tu avais un comité du programme, ton projet, ça devait être. Tu avais quand même certaines limites, c'est-à-dire que nécessairement, tu devais sortir un tape après tant de temps. Ça devait être une production comme telle. C'était difficile d'expérimenter d'autres affaires, à moins de te ramasser dans la cave, comme Jean-Pierre Boyer, de bricoler ses petites affaires. C'est moi, en tout cas, j'interprète ça de même là, pour l'année que j'ai vécu l'an dernier ici. C'est que tous les problèmes de la production sont liés au fait que, d'une part, ça fonctionne comme c'était avant. C'est-à-dire que tu reçois tout le temps du monde neuf puis qui ont tendance à reproduire les mêmes affaires qu'avant. Puis tu as très peu de place au niveau de l'expérimentation, au niveau des contenus, puis travailler avec le monde.
Il y a eu beaucoup d'expérimentation technique qui s'est faite, là, de développement technique. Mais du point de vue du contenu ou de la façon de produire du software en général, c'est resté à une ou deux productions faites par du monde. Puis à un moment donné, ben, ils partaient parce qu'ils n'étaient plus capables, soit qu'ils n'étaient plus capables de faire du vidéo, soit qu'ici, ils trouvaient ça trop... Moi, c'est dans ce sens-là que je dis que cette critique majeure-là par rapport aux vidéographes, par rapport aux moyens de production qui sont pas entre les mains du monde vraiment, puis qui servent toujours à répéter les mêmes affaires, puis qui devraient peut-être sortir plus pour des nouvelles expériences.
Ça, moi, je suis très d'accord avec le point de vue que il faut innover au niveau de la production. Mais. De toute façon, moi, à mon avis, cette année, là, la production telle qu'on fonctionne n'apportera rien de plus aux vidéographes. Rien. Rien. Moi, je trouverais bien plus intéressant de consacrer ce 68 000 piastres-là à l'expérimentation du câble là, à Saint-Jérôme, où tu as quatre canaux bidirectionnels, puis que tu peux avoir... une émission qui se passe en dehors de la, dans quatre points différents de la ville. Mettons, tu prends un gars de tricophile là, qui arrive à un conflit. Tu as une caméra au conseil municipal, une caméra tricophile, une caméra dans une famille d'ouvriers, puis une quatrième, ça a une place publique. Puis là, tu fais l'émission de quatre coins. Mm-hmm. Fait. Ou bien, je pense à des expérimentations. Tu as un samedi qui pleut, puis les enfants. C'est encore fermé, ça. Les enfants, tu commences une histoire dans une famille. Mettons l'histoire de Sinbad le marin. Bon. Et puis, il y a toute une préparation. Premièrement, pendant une demi-heure, tu expliques l'histoire, là. Puis, tu parles des personnages, tu mets les enfants en condition, etc. Puis là, l'histoire, ça commence dans un foyer. Puis ensuite, ça se continue dans un deuxième foyer. Tu as les mêmes personnages, mais joués par d'autres enfants. Puis, tu fais le tour comme ça. T'sais, tu peux faire autant de foyers que tu veux. T'as quatre canaux bidirectionnels. Quand t'as fini une glace, tu vas chez un autre. Et puis, tu peux faire les 8 épisodes. Bon, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. Moi. Comment les enfants feraient le filage d'un lieu à l'autre. Ça, ça serait le fun, ça. Des affaires comme ça. Mais moi, je veux dire, je te parle du corps parce que, bon, j'ai un intérêt là. Il y a sûrement aussi d'autres expérimentations à demi-pouce. Sur le corps, là, tellement vidéo, qui pourrait se faire.
Moi aussi, je suis pas certain.
Mais là, je me demande ce qui. En fait, ces choses-là, ça a l'air bizarre à dire. Je ne sais pas si. Il y aurait moyen avec le Conseil des arts, disons, de demander une subvention. Ils ont donné 22 000 piastres à Floralie cette année.
Puis, quasiment 20 000 à Bouquet.
Oui. Il y aurait moyen d'arriver l'an prochain, là, de soumettre une demande de subvention, mais de projet d'expérimentation. Si tu veux, je pense pas que ce serait une bonne chose de prendre de l'argent et de donner au monde comme ça. Je pense pas que ça serait vraiment productif. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de convoquer le monde avant, de définir des projets de recherche avant, avec les gens. Si tu veux, comme vous autres, au lieu de demander de votre projet tout seul au Conseil des arts, que ça serait fait dans le cadre du vidéographe. Les gens définiraient exactement ce qu'ils veulent, mais il y aurait le nom de vidéographe, la garantie administrative vidéographe derrière. Puis là, une fois la subvention est rentrée, puis que le projet est défini par vous-même d'ailleurs, là tu le fais. Je pense que ce serait la façon d'orchestrer l'affaire. Il faudrait, ça va dépendre s'il y a le scène ou pas. Puis ça va dépendre aussi qu'est-ce que le vidéographe, quelle sera son indépendance. À coquiner avec l'IQAM. Mais si on a la même indépendance qu'actuellement, moi je verrais très bien là, que Sacre rencontre réunisse avec les gars qui. Vous avez tous fait vos demandes, tout ça. Pourquoi pas structurer un projet global de recherche? Ou finalement, vous feriez exactement ce qui vous intéresse. Mais là, que ce soit dans un projet global, structuré. À ce moment-là, je pense qu'il serait intéressant de débloquer beaucoup plus de fonds pour le Québec. J'ai l'impression que je vous ai... dit, raconté les affaires qu'on s'est dit à peu près 18 fois. Puis que les autres vous ont dit avant
moi. Non, ben hein? Non, pas plus que ça.
Tu penses comme pour aller dans le cadre de la fin du bénévolat, là, pour les gens qui ont les qualifications. Le projet que tu avais soumis, tu sais, les dossiers. Il faut que tu aies engagé un superviseur. Ben, le monde. C'est pas encore payé assez. C'est 175$ par semaine. Il n'y a pas un caméraman qui gagne ça à Montréal. Mais je veux dire, il faut commencer quelque part. Il faut se faire un pont de bambou au-dessus de la rivière. Et puis.
Parce que derrière l'optique de ces productions de dossiers, là, moi, au moment où j'avais formulé ça, c'est que c'était un dossier sur une affaire sur laquelle tu mettais 100 producteurs.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas rien que ça s'appelait une production de dossier. Par exemple, tu prenais une affaire.